La doctrine sociale chrétienne nous offre beaucoup de repères. Elle aide à réfléchir aux causes. Ce qu'on lit couramment dans la presse économique spécialisée, c'est une lecture certes juste, mais sans doute insuffisante. Les causes dépassent les dérèglements du système financier. Les causes sont d'ordre social et humain. L'aspect social, c'est quelqu'un est responsable du bien commun, ce sont les pouvoirs publics en démocratie, et il a manqué, dans la crise présente, un rôle des pouvoirs publics, il faut le rétablir. L'aspect humain, on s'aperçoit que la situation actuelle a non pas épanoui l'homme, mais elle a présenté comme modèle un visage de l'homme, un visage de l'humain, complètement tronqué par rapport à ce que l'enseignement social chrétien nous apprend de l'homme, à savoir qu'il est fait à l'image de Dieu. La fraternité était totalement reniée par le modèle de l'homme que les conditions de rémunération prévalentes dans le système financier avaient laissé s'établir.
Et comment, en connaissant ces causes, pourrait-on remédier à la crise ?
Selon l'enseignement social chrétien, il faut travailler sur deux tableaux. Le tableau du bien commun, qui fait que le système financier ne peut vraiment produire son fruit que s'il est assigné à des règles effectivement appliquées et définies par les autorités publiques. Il faut travailler aussi à un autre niveau, qui est le niveau personnel, la motivation des gens, les opérateurs, les financiers, les banquiers, mais aussi leurs clients. Et cette motivation ne peut pas être seulement le gain individuel. Si elle est seulement ça, eh bien, on arrive aux catastrophes que nous avons connues, et on arrive en particulier à l'apologie de ce qu'on appelle les paradis fiscaux. C'est simplement le reflet d'une vision de l'homme dans laquelle tout est bon pour échapper aux exigences de solidarité. On sait que dans les paradis fiscaux, on est affranchi de l'impôt qu'on doit normalement payer dans le pays où on exerce son activité principale.
Quelles orientations concrètes l'Église pourrait-elle proposer pour aider à sortir de cette crise ?
Je crois qu'elles peuvent encourager, parce que c'est la chose la plus urgente, la coopération entre les gouvernements. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut établir des règles. Le problème en matière financière, c'est que des règles pour un seul pays, ça ne va pas. Il faut que les règles soient reconnues par tous, ce qui implique une grande coopération, une bonne volonté internationale. Et là, l'Église, aujourd'hui, doit aider, parce que ce n'est pas facile, retrouver les accents qu'avait le pape Jean XXIII il y a déjà très longtemps. Il préconisait des autorités mondiales de compétences universelles pour précisément formuler et appliquer des règles d'intérêt général. Nous y voilà. Nous voyons bien à quel point c'est difficile pour les gouvernements réunis dans ce qu'on appelle le G20 ou le G8 de se mettre d'accord. Et pourtant, c'est absolument nécessaire et l'Église devrait les encourager.
Y a-t-il d'autres points où l'Église pourrait agir ?
La deuxième chose que l'Église pourrait faire, c'est de mettre en avant le principe de subsidiarité qui permet d'établir un équilibre entre ce qui est fait par l'autorité supérieure et ce qui est de la responsabilité personnelle de l'individu. Et la troisième chose qu'on peut attendre de l'Église aujourd'hui, c'est un appel à la justice sociale. Je crois que les Églises peuvent attirer l'attention des gouvernements sur la nécessité de mieux protéger ceux qu'elles risquent de frapper le plus. Ça veut dire que l'impôt, qui est un moyen le plus direct d'assurer la protection des plus faibles et en même temps de remettre l'économie sur ses rails, de stimuler la demande publique, l'impôt est plus que jamais légitime, et ça les Églises pourraient le dire, au nom d'une préoccupation de justice sociale.